RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel.
RFI matin.
Bonjour Gaëtan Plenaire.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Israël dit oui, mais pas le Hamas.
Alors pas non non plus, pas encore, mais le mouvement palestinien n'est visiblement pas satisfait de la proposition américaine de cesser le feu à Gaza. On vous explique ce qu'elle contient dès le début de ce journal. On est aussi en Chine, où les autorités dénoncent une atteinte aux droits des étudiants. Le secrétaire d'État américain veut révoquer de manière agressive les visas des étudiants chinois. À la une également, l'arrestation d'un nouveau leader de l'opposition en Géorgie. La perpétuité prononcée en Afrique du Sud contre une femme reconnue coupable d'avoir vendu sa fille de 6 ans à des fins d'esclavage. Et puis on sera aussi en France, où le gouvernement veut faciliter la régularisation des médecins étrangers.
L'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza s'amenuise.
Il y a pourtant un nouveau plan américain. Il a été soumis aux deux camps. Israël a donc dit oui. Du côté du Hamas, on dit continuer à l'étudier, mais on dit aussi que c'est mal parti. Ça ne répond à aucune des demandes de notre peuple, a déclaré dans la soirée un responsable du mouvement palestinien, nos confrères de l'agence France Presse, estimant qu'il est ce plan trop en faveur de l'État hébreu. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau plan pour l'instant? Qu'est-ce qu'on en sait?
Eh bien, ce nouveau plan prévoit une trêve de 60 jours, selon des sources israéliennes qui sont citées par les médias ici, avec la libération immédiate de la moitié des otages présumés être toujours vivants. Ils sont au nombre de 10. Alors, la partie la plus sensible porte sur la fin de l'état de belligérance. Une formule a été mise au point par l'émissaire américain Steve Witkoff. Israël s'engagerait à respecter un cessez-le-feu à longue échéance, tout en négociant une nouvelle phase de l'accord qui pourrait aboutir sur la fin des combats. Et c'est sur ce point précis qu'une fois encore, la négociation semble achoppée. L'élément nouveau, en tout cas cette fois-ci, c'est que le Hamas demande pour sa part des garanties, notamment directement de la part du président américain Donald Trump. C'est lui qui devrait personnellement annoncer un cessez-le-feu.
Et comment réagissent les familles des otages israéliens encore détenus par le Hamas ?
Alors Benjamin Netanyahou a reçu une partie des familles pour leur annoncer la position israélienne. Les proches d'otages disent ne pas être satisfaits des réponses qu'ils ont obtenues. Là encore, une question extrêmement délicate plane sur la finalisation de l'accord. Qui va choisir les otages qui seront libérés ? Plusieurs organismes qui sont chargés de gérer cette question des otages ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refusaient de procéder à une sélection. Et le Forum des familles affirme que la seule issue à ce dilemme est la libération de tous les otages sans exception, et cela en une seule vague.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem. Et 54 personnes ont été tuées à Gaza hier, selon la défense civile locale. L'hôpital Al-Aouda, le seul encore en activité dans le nord de l'enclave, a lui annoncé que les forces israéliennes étaient en train de procéder à une évacuation forcée des patients et du personnel médical de l'établissement. Et les Européens devront durcir la position collective contre Israël s'il n'y a pas dans les prochaines heures ou les prochains jours une réponse humanitaire à la hauteur de la situation dans la bande de Gaza. Déclaration du président français depuis Singapour où il achève sa tournée en Asie du Sud-Est. Concernant la reconnaissance d'un État palestinien, ce n'est pas seulement un devoir moral mais une exigence politique, déclare Emmanuel Macron qui cite quand même une série de conditions, notamment la libération des otages et la démilitarisation du Hamas.
Le chef de l'État français qui pendant cette même conférence de presse a parlé d'un test de crédibilité pour les États-Unis.
Oui, pour lui, Washington doit s'engager à sanctionner Moscou si la Russie, je cite, confirme ne pas être prête à faire la paix avec l'Ukraine. À Moscou qui a proposé un nouveau round de négociations lundi prochain à Istanbul, l'Ukraine se dit prête à y participer mais réclame pour cela de recevoir la liste complète des exigences russes, ce que le Kremlin ne semble pas prêt à faire.
Une décision politisée et discriminatoire, réaction de la Chine à cette annonce américaine. Le secrétaire d'État Marco Rubio veut révoquer de manière agressive les visas des étudiants chinois.
En particulier ceux qui ont des liens avec le Parti communiste ou qui étudient dans des domaines sensibles tels que les sciences et la technologie. Pour Pékin, ça porte atteinte aux droits des étudiants et ça nuit aussi aux échanges culturels entre les États-Unis et la Chine. À Pékin, Cléa Broadhurst.
Les annonces américaines sur la suspension possible de visas pour certains étudiants chinois créent l'incertitude. Pour ceux qui rêvent d'étudier aux États-Unis, l'heure est à la prudence. Émilie, conseillère spécialisée dans les candidatures à l'étranger, suit l'évolution de la situation de près.
Les Américains vont désormais exiger des informations sur les comptes de réseaux sociaux des 5 dernières années. Le gouvernement utilisera des mots-clés et des outils analytiques pour identifier les propos potentiellement dangereux. Il vérifiera également si vous avez participé ou soutenu des manifestations en faveur de la Palestine ou si vous avez déjà tenu des propos anti-américains ou anti-Trump.
Une surveillance accrue qui pousse Emily à prodiguer un conseil simple mais crucial. Faire profil bas.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut espérer que tout ira pour le mieux. Mais les étudiants qui se préparent à postuler pour étudier aux États-Unis ou les parents qui envisagent d'y envoyer leurs enfants devraient également recueillir davantage d'informations afin de ne pas compromettre l'avenir de leurs enfants. S'ils peuvent suspendre les visas aujourd'hui, ils peuvent les annuler demain. En tant qu'investissement, ce n'est plus une bonne affaire.
Rien n'est officiel, mais le message est clair. Mieux vaut éviter toute prise de position politique publique, surtout en ligne, car désormais, un simple poste pourrait coûter l'accès à l'université. Cléa Broderst, Shoshian Yuan, Pékin, RFI.
La Chine, avec qui les relations commerciales sont dans l'impasse, reconnaît le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent. Pour lui, le déblocage pourrait venir d'un potentiel coup de téléphone entre les deux présidents dans les prochaines semaines. Peut-être que d'ici là, la justice américaine aura tranché sur les droits de douane imposés par Washington à la Chine et à d'autres pays, car après une suspension par le Tribunal de commerce international des États-Unis, pour qui Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs, eh bien, une cour d'appel a, elle, réinstauré ses surtaxes douanières provisoirement, le temps d'étudier le dossier.
En Géorgie, une nouvelle arrestation dans les rangs de l'opposition.
Après Zourab Japaridze la semaine dernière, c'est Nika Melia qui a été arrêté hier par la police, son avocat l'a confirmé. Le tout alors que la répression du parti au pouvoir, le rêve géorgien, s'intensifie depuis les législatives d'octobre, remportées par ce parti, mais sur fond d'accusations de fraude. Correspondance à Tbilissi de Résis Jantet.
C'est le second politicien de premier rang arrêté en une semaine. Cette fois, c'est Nika Melia, ex-patron du principal parti d'opposition, le Mouvement National Uni, et homme clé de la Coalition pour le Changement, qui a été appréhendé ce jeudi soir. Ce vendredi, il était convoqué devant un tribunal de Tbilissi après son refus de se présenter devant la commission parlementaire créée ad hoc pour enquêter sur les prétendus crimes du régime précédent, celui de l'ancien président très pro-occidental, Mikhaïl Saakachvili. Commission présentée par le pouvoir en référence au tribunal de Nuremberg contre le régime nazi allemand, mais dénoncé par les opposants et les organisations de la société civile comme une mascarade destinée à éliminer toute opposition pro-occidentale. Bidzina Ivanishvili, le milliardaire homme fort de la Géorgie, et ses hommes dans le gouvernement ont promis à plusieurs reprises de faire interdire les partis d'opposition. Et ce, dans un contexte où des Géorgiens manifestent chaque jour depuis plus de 6 mois contre la dérive pro-russe et dictatoriale du parti au pouvoir. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
À l'état d'urgence décrété au Saskatchewan dans l'ouest du Canada, deuxième province du pays à le faire après le Manitoba. Dans ces deux régions, des milliers de personnes ont été évacuées. La faute aux feux de forêt qui progressent. Ils sont particulièrement précoces cette année. Un nouveau président pour la BAD, la Banque africaine de développement, c'est le Mauritanien Sidi Oulta qui a été élu hier à Abidjan en marge de l'assemblée annuelle. Il entamera en septembre un mandat de 5 ans à la tête de l'institution panafricaine.
À la une également, le début hier en Afrique du Sud de la Semaine de la protection de l'enfance.
Et hasard du calendrier, Julien, ça arrive au moment d'une décision de justice qui était très attendue. Une mère a été condamnée à la perpétuité pour traite d'êtres humains et enlèvement. Elle a en fait été reconnue coupable d'avoir vendu sa fille de 6 ans à des fins d'esclavage selon le parquet. La mère a été retrouvée mais pas la fille, Valentin Hugues.
La protection des enfants est la responsabilité de tous, déclare le parquet sud-africain une fois le verdict prononcé. Mais la perpétuité ne ramènera pas ma petite fille, disparue depuis plus d'un an, martèle la grand-mère de Jocelyn Smith. Pour beaucoup, cette affaire illustre surtout un système qui échoue à protéger ses enfants. Même si certaines lois prometteuses de protection de l'enfance ont accompagné l'avènement de la démocratie il y a plus de 30 ans, les services de protection sont surchargés, souvent sous-financés, sans oublier le manque de suivi des parents en matière de santé mentale. Résultat, les chiffres sont alarmants. 3 meurtres d'enfants chaque jour et une disparition toutes les 5 heures. Chaque procès réveille alors ce besoin urgent de réformer l'aide à l'enfance dans le pays. La Commission des droits humains d'Afrique du Sud demande par exemple une meilleure application des peines, la mise en place plus sérieuse d'un registre des délinquants sexuels pour les empêcher de travailler au contact des plus jeunes et une prise de conscience de l'ensemble de la société pour briser le cycle de la violence et mettre fin à ce fléau. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
En France, l'espace fumeur se réduit peu à peu. Cigarettes interdites dès le 1er juillet sur les plages, dans les parcs et les jardins publics, aux abords des écoles, sous les abris de bus aussi. La ministre de la Santé l'a annoncé dans une interview accordée à un quotidien local. Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître, a-t-elle dit.
Le ministère de la Santé qui a publié 2 décrets hier.
Et les médecins exerçant avec un diplôme obtenu hors de l'Union européenne font un pas de plus vers une régularisation promise depuis longtemps par le président Emmanuel Macron. Explication d'Amélie Beaucourt.
Ils étaient près de 5000 en France à attendre que le gouvernement tienne une promesse faite en janvier 2024. Les PADHU, ces médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes et pharmaciens qui exercent sur le territoire avec un diplôme de médecine obtenu à l'étranger, vont désormais voir leur parcours reconnu dans l'autorisation d'exercice qui leur est délivrée. Une avancée selon Abdel Méchouar du syndicat national des praticiens à diplôme hors Union européenne.
Ce qu'ils veulent faire, c'est une voie interne pour les gens qui sont déjà en place ici. En gros, ce serait un examen, on appelle ça un QCM pour pas dire autre chose, où ils demandent effectivement un avis du chef de service par rapport aux candidats éligibles qui ont 2 ans d'expérience minimum, d'accord, qui sont en poste ici en France.
Auparavant, seul un concours de vérification de connaissances très sélectif, appelé EVC, permettait d'obtenir un statut équivalent à celui des titulaires français. Des épreuves qu'il fallait préparer alors même que les PADHU exerçaient déjà à temps plein dans des hôpitaux en sous-effectif pour un salaire 3 fois moins élevé qu'un praticien ayant reçu son diplôme dans un pays de l'Union européenne.
Amélie Beaucourt.
Et puis Gaëtan, on termine avec cette pièce en ce moment en France, au Théâtre Antoine.
La prochaine fois que tu mordras la poussière. À la base, c'est un roman de l'acteur et humoriste Panayotis Pasco. Maintenant, c'est une pièce mise en scène par un autre Pasco, le frère Paul. Ça reste dans la famille et ça tombe bien, cette famille qu'il est question. La relation distante, complexe entre un père et son fils, Lisa Giraldini.
Si tu colles ton doigt sur un miroir, le doigt en réflexion ne touchera jamais ton vrai doigt, il y aura toujours 1 millimètre d'écart. Cette métaphore donne le ton de la pièce, véritable huis clos émotionnel. Alors que le père, incarné par Yann Pradal, est mourant, les non-dits et la difficulté à être vulnérable en famille sont décuplés. Pour son premier rôle au théâtre, Vassili Schneider incarne le fils, rôle qui lui a valu le Molière de la révélation masculine de l'année.
C'est un texte qui parle de la difficulté qu'on peut avoir à s'offrir aux autres, à recevoir, de la vulnérabilité qu'on s'interdit trop souvent, particulièrement en tant qu'homme. Ce sont des choses que je vis, que j'apprends à surmonter grâce au texte, grâce au spectacle, grâce au théâtre, qui s'est révélé pour moi être l'art du partage, l'art de s'ouvrir aux autres et à soi-même.
Les deux comédiens, pudiques et distants, ne se rencontrent jamais vraiment. L'un est sur scène, l'autre dans la salle. Le père fuit dès qu'une émotion le frôle, symbole d'une génération qui manque de clés pour communiquer. La prochaine fois que tu mordras la poussière, explore avec une intensité rare le fossé invisible entre ceux qui s'aiment sans parvenir à se comprendre.
La prochaine fois que tu mordras la poussière, c'est au théâtre Antoine à Paris jusqu'au 7 juin prochain.
Merci Gaëtan Plenet, à tout à l'heure. RFI Matin continue avec le journal des sports. Et avec vous Antoine Grenier en football, encore 24 heures d'attente pour le Paris Saint-Germain.
Les champions de France décollent ce vendredi pour Munich à la veille de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Finale comme un premier aboutissement pour un collectif aux qualités largement saluées tout au long de la saison. Qualité mise en lumière par le travail de Luis Enrique, que salue l'ancien manager d'Arsenal, Arsène Wenger.
Il a fait un travail remarquable. Je pense qu'il a su faire une équipe très équilibrée avec des joueurs très explosifs sur les côtés, très techniques dans l'axe. Et en ayant, je pense, réussi à faire rendre Dembélé efficace. On sait qu'il a un talent exceptionnel, mais Dembélé a pris goût aujourd'hui au fait de marquer des buts. Peut-être que Dembélé a joué pendant longtemps pensant qu'il n'était pas buteur, et maintenant qu'il sait qu'il peut l'être, il joue plus pour être efficace.
Arsène Wenger avec Salihou Diouf.
De son côté, le FC Metz revient en Ligue 1 un an après l'avoir quitté.
Les Lorrains, 3e de Ligue 2, sorti vainqueur du barrage face à Reims. Après le nul un partout du match aller, les Messins sont allés s'imposer au stade Auguste Delaune. Succès 3-1 après prolongation au match retour.
En basket, la NBA et les Knicks redonnent de l'espoir à leurs supporters.
Les New Yorkais de retour à 3-2 après leur succès de la nuit, 111-94 sur les Indiana Pacers. Une finale de conférence Est qui reprend donc de la saveur avant le match 6 prévu samedi samedi à Indianapolis.
Et puis en tennis, fin de parcours pour Gaël Monfils à Roland-Garros.
Le français tombait les armes à la main face à Jack Draper. L'anglais numéro 5 mondial a fait plier Monfils au bout d'une bataille de plus de 3 heures, perdue en 4-7, 6-3, 4-6, 6-3, 7-5. Une défaite que le français a encaissée en voulant surtout retenir le positif.
Bonne nuit, honnêtement, chaque point est dur. Pas de point facile, il retournait extrêmement bien. Il a bien joué son jeu, il a vraiment bien joué son jeu. En fait, quand je peux pas faire grand-chose, je suis allé moi aussi sur mon coup droit long de ligne, il est sorti, il a bien joué derrière. Donc honnêtement, une belle nuit, une belle rencontre. Et surtout, j'étais content parce que il a beau être bien en confiance, j'ai réussi quand même à bien le titiller. Donc ça, j'étais vraiment content pour ça.
Gaël Monfils avec Babacar Diarra. Jack Draper défiera samedi au troisième tour le Brésilien de 18 ans, João Fonseca. Un troisième tour auquel prendra part Novak Djokovic, le Serbe, vainqueur tranquille de Corentin Moutet en 3-7. Le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, n'a lui non plus pas souffert pour envoyer Richard Gasquet à la retraite. L'Italien n'a concédé que 7 jeux avec un succès 6-3, 6-0, 6-4.
Merci Antoine Grenier. Et bonjour Stéphane Jeuneste.
Bonjour Julien.
On en parlait à l'instant, vous entendez les supporters du Paris Saint-Germain qui s'époumoneront demain sur cette terre à Munich à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. L'occasion pour nous de parler économie du foot et de voir l'évolution du club en la matière, Stéphane, notamment depuis que le Qatar en est le propriétaire.
Oui, c'est en 2011 que le Qatar a racheté le PSG, club très endetté et sportivement moyen pour à peu près 70 millions d'euros. 14 ans plus tard, on n'est plus vraiment sur les mêmes tendances. Le Paris Saint-Germain multiplie les titres de champion de France et vaut aujourd'hui un peu plus de 4 milliards d'euros. C'est 60 fois plus que le prix d'achat.
Mais cette métamorphose s'appuie sur une stratégie financière agressive avec des investissements à tous les niveaux.
Oui, depuis le rachat par le Qatar, ce sont 2,1 milliards d'euros qui ont été dépensés uniquement en transfert avec l'arrivée de grands noms du foot. On pense à Ibrahimovic, Cavani, Messi, Neymar ou encore Mbappé évidemment. Et là, on parle bien de transfert, pas de leur rémunération annuelle. On peut aussi noter des investissements, et cela sur du plus long terme, comme par exemple la rénovation du Parc des Princes à Paris ou encore la construction d'un centre de formation.
Ce qui permet au PSG d'être aujourd'hui un acteur important du football.
Et car c'est vrai, sans ces injections financières difficiles, voire quasi impossibles, de viser une demi-finale, voire une finale de Ligue des Champions. En moyenne, un budget de 450 millions d'euros par an est nécessaire pour espérer ce niveau. Et le PSG dépense aujourd'hui presque le double. Ce modèle soulève aussi des questions sur la pérennité et la dépendance aux capitaux qatariens.
Et c'est donc la question, Stéphane, est-ce que cette stratégie financière a permis au PSG d'être un grand club européen ?
Alors, sportivement, le chemin a été un peu plus complexe. Le premier objectif, c'était de reconquérir la Ligue 1, ce qui a largement été réussi avec plusieurs titres depuis 2011. Mais la vraie obsession, en effet, ça reste la Ligue des Champions, qui reste la compétition reine. La finale de demain, 5 ans après la première en 2020, c'est une étape majeure dans le storytelling qatarien. C'est à la fois un succès sportif et une consécration pour le moment symbolique, pour le projet du pays, mais aussi pour le club. Pourtant, tout cela, Julien, reste à relativiser, car le PSG a mis du temps à arriver là, plus longtemps que certains clubs comme Chelsea, racheté par un investisseur russe, qui a atteint cette étape plus rapidement.
Mais le PSG, c'est aussi une marque à part entière.
Un club qui est devenu, on peut le dire, une vitrine mondiale, notamment en Amérique du Nord, où il figure parmi les clubs qui vendent le plus de maillots. Pour être tout à fait trivial, l'argent c'est le nerf de la guerre et il a été essentiel au PSG pour atteindre ce niveau. Et sans titre européen demain, la défaite pourrait entraîner une décote de la valeur du club. En fait, Julien, le Qatar a transformé le PSG en géant économique, mais pas encore en légende sportive. Et cela peut-être jusqu'à demain soir.
On verra bien. Et pour aller plus loin, vous retrouvez en ligne le décryptage de Pierre Rondeau, économiste du sport. C'est la rubrique Aujourd'hui l'économie sur RFI.fr. Merci Stéphane Jeuneste. 8h19 à Paris, c'est un témoignage poignant, rare et précieux que RFI vous fait entendre ce matin. Alors qu'Israël a accepté hier une proposition américaine de cesser le feu, mais que le Hamas se dit insatisfait, avant ces annonces, Arnaud Pontus a rencontré l'historien Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris. Lui qui connaît bien, intimement, la bande de Gaza, a pu entrer dans le territoire en décembre dernier et il raconte ce qu'il y a vu dans un nouveau livre.
Bonjour Jean-Pierre Filiu.
Bonjour.
Un historien à Gaza, c'est votre témoignage, le récit de votre séjour à Gaza durant un mois, du 19 décembre 2024 au 21 janvier 2025. Ce récit, vous l'ouvrez par ces mots « rien ». Rien ne me préparait à ce que j'ai vu et vécu à Gaza, rien de rien. Vous diriez que vous avez vu et vécu l'inimaginable ?
L'inimaginable, tout à fait. Le défi était de mettre des mots sur l'innommable. Et ce livre s'efforce de nommer de la manière la plus simple, la plus précise, la plus neutre, malgré l'ampleur de la tragédie, ce qui se passe à Gaza et qui, littéralement, dépasse l'entendement.
Pourquoi vous, le professeur, l'historien, avez-vous tenu à vous rendre dans la bande de Gaza en guerre ?
Parce que je ne supportais plus de regarder ce drame de loin. Je ne supportais plus à titre humain. Mais je sentais aussi que comme universitaire, comme chercheur, je perdais pied face à une réalité qui était en train de se transformer de manière aussi violente, aussi brutale, aussi systématique. Et c'est seulement sur place, malgré toutes les informations, documentations, photographies, statistiques que j'avais, que j'ai pu prendre réellement la mesure d'une telle démolition, de tels ravages.
Et la mesure, vous la prenez dès les premières minutes de votre voyage, dès votre arrivée de nuit dans la bande de Gaza. Vous comprenez que vous ne pourrez plus reconnaître ce territoire que vous connaissez tant pourtant. Vous avez perdu quasiment tous vos repères.
Il m'a fallu plusieurs jours, en effet, pour retrouver ces repères, me situer, à la fois du fait de la destruction méthodique des centres urbains, mais aussi de cette mer de tentes, au sens propre, dans la zone dite humanitaire, bien mal nommée, où plus d'un million de personnes, peut-être un million et demi, étaient concentrées sur quelques dizaines de kilomètres carrés entre les dunes, la mer et tous les espaces vacants qui avaient été systématiquement occupés.
J'ai beau avoir fréquenté par le passé quelques théâtres de guerre, de l'Ukraine à l'Afghanistan, en passant par la Syrie, l'Irak et la Somalie, je n'ai jamais, au grand jamais, rien expérimenté de similaire. C'est l'une des phrases que l'on retient aussi de votre récit. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans la situation de la bande de Gaza, Jean-Pierre Filiu, et vous pouvez le dire, vous, en tant qu'historien et en tant que témoin?
C'est qu'on est face à une catastrophe de la main de l'homme. Ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est un acharnement méthodique pendant maintenant plus de 600 jours contre un territoire très limité, hein, 360 km², où on a, avec système, avec brutalité, détruit ce qui en faisait un espace de vie. Et ça, effectivement, je n'ai jamais rien expérimenté de comparable.
Oui. Vous avez donc passé un mois à l'intérieur de ce qu'Israël a appelé la zone humanitaire. De quoi sont faites les journées pour les Gazaouis qui vivent là ?
C'est le plus grand défi de la femme, de l'homme ou de l'enfant à Gaza, c'est comment cette journée va se dérouler. Parce que d'abord, il faut comprendre qu'on est dans l'incertitude totale. On vit dans la vulnérabilité d'une tente qui n'est pas un abri. Il suffit qu'il y ait une frappe proche et les flammes peuvent très vite l'atteindre. Et puis, on est contraint par la quête permanente de l'eau et de la nourriture. Hein, et la nourriture, le monde entier en est assez courant, on est peut-être moins conscient du défi de l'eau. Hein, et, il n'y a à Gaza que très peu d'eau potable et à peine plus d'eau pour laver, maintenir un minimum d'hygiène. Et puis, il y a les attentes interminables d'un arrêt des combats, l'espoir toujours déçu d'une trêve. Et j'ai eu la chance de vivre les premiers jours de la trêve
du 19 janvier,
où là, soudain, la vie revenait, l'espoir renaissait, et on avait des masses humaines, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Palestiniens qui allaient à pied replanter leurs tentes sur les ruines de ce qui était leur maison. Mais même cet espoir-là, il a été brisé par Israël le 2 mars avec le rétablissement d'un blocus hermétique, hein, l'arrêt de l'aide humanitaire. Et si celle-ci est fournie chichement au compte-gouttes depuis quelques jours, c'est dans des conditions qui ne respectent pas le minimum de dignité des populations concernées.
Oui. Dans cette zone humanitaire, que vous disent les Gazaouis? Vous parlez arabe, donc vous avez un contact et un dialogue direct avec eux. Que vous disent les Gazaouis que vous rencontrez durant ces quelques semaines?
C'est comme si le présent n'existait pas, parce que le temps est suspendu dans cette quête perpétuelle d'eau, de nourriture, d'un minimum de protection qui n'est jamais atteint. Donc on idéalise le passé, on parle des jours heureux, alors que j'ai connu quand même quelques guerres dévastatrices à Gaza. Et puis on se projette dans un avenir presque miraculeux. Et donc on insiste, on me fait promettre, jurer que je reviendrai et que là on pourra vraiment me recevoir, pas sous une tente, mais dans sa maison, dans son foyer.
Oui, revenir, c'est une obsession. Vous voulez revenir?
Moi, je veux bien sûr revenir à Gaza.
Mais... Et ce qui explique aussi qu'après 32 jours et 33 nuits sur place, vous quittez, et je vous ai entendu dire que vous avez ressenti un sentiment de honte en partant.
Oui, parce que heureusement, si j'ose dire, pour moi, c'était la trêve. Donc, il y avait une petite brèche qui s'était ouverte dans cette horreur quotidienne pour la population. Mais je savais que je laissais derrière moi cette humanité abandonnée, ces femmes et ces hommes qui m'avaient ouvert leur cœur, ouvert non pas leur maison, mais souvent leur tente. Et que, eh bien, il restait derrière moi. Moi, je pouvais sortir la tête haute, je pouvais sortir sans crainte pour les miens, pour mes biens, et que ce droit élémentaire que tout être humain doit préserver, eh bien, il leur est dénié.
Oui, vous écrivez encore, c'est presque la conclusion, ce qui se passe à Gaza avait, a et aura une valeur universelle. Gaza s'est effondré sur les normes du droit international. Ça veut donc dire qu'il y a bien une leçon à tirer de cette guerre.
Oui, il faut avoir très peur de ce que Gaza est devenu, très peur pour les femmes, les hommes, les enfants qui sont livrés à une telle horreur, mais aussi très peur pour notre monde, parce que si quelque part, pendant 20 mois, on a pu infliger en toute impunité de tels traitements, et ben pourquoi pas ailleurs? Et on voit bien que Vladimir Poutine en Ukraine se sert dès maintenant du précédent de Gaza pour justifier ses propres atrocités et ses propres crimes de guerre. Et on voit à Gaza, non pas une dystopie, ça existe, un monde sans règles, un monde sans Nations Unies, un monde sans droit, un monde livré aux charognards, aux mercenaires, à l'intelligence artificielle et à ceux qui tuent sur la base d'une simple reconnaissance faciale. Et ce monde-là, il a déjà une réalité à Gaza, et il faut que le monde entier en soit conscient pour mettre fin à une telle horreur.
Un historien à Gaza s'est publié aux éditions Les Arènes. Merci.
Merci.
L'historien Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, grand invité international de Arnaud Pontus que vous retrouvez sur RFI.fr. Et la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, on en reparle à 7h temps universel, alors que les premières distributions d'aide via une société privée ont viré au chaos cette semaine. Témoignage de Gazaoui à suivre sur place. Bientôt 6h30 en temps universel.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Nous vous proposons de réentendre l'émission Questions de femmes consacrée à l'hygiène intime pour conseiller et démentir les fausses croyances.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Si l'année 1988 a marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie avec des émeutes et une forte répression, peu de livres racontent cet épisode. L'écrivain algérien Saïd Katibi a décidé de l'aborder via un roman noir, une métaphore de son pays qu'il raconte dans La fin du Sahara.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Leur énergie est à la fois libératrice et percutante, leur trance joyeuse. Le trio louso-angolaise Shows and the Shine est dans BPM La Rencontre.
Yeah, yeah, chapa, chapa.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.